Rollis TV, bonsoir Mathieu, avec un seul T à l'antenne et à mes côtés, alors déjà je vous dis bienvenue à ce live, mais ce n'est pas n'importe quel live car il s'agit d'un live pour les 50 ans du jeu de rôle et comme vous le voyez, il y a du monde autour de moi, alors je commence avec mon palier pour dire bonjour à Justine, comment vas-tu ?
Salut, ça va très bien, merci de ton accueil et merci à tout le monde d'être présent.
Nous avons William, habitier des studios, qui est juste en dessous. William, oui, c'est, oui faut, ça s'inverse.
Voilà. William, ça s'inverse, ouais.
Bonjour William. Voilà, alors William, que vous bonsoir. Avez déjà vu il n'y a pas très très longtemps, quand on parlait de William qui a écrit ce livre Winter is Coming, c'est de la fantasy et puis une histoire politique. Et puis, il n'a pas de casque à pointe parce qu'il s'y connaît très très fort en viking. Il n'a pas de casque à pointe. Il a écrit Viking, les vikings et leurs mythes. On le connaît aussi dans les sphères rôlistes et aussi dans les sphères universitaires. Laurent Di Filippo, bonjour Laurent.
Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde, merci. Voilà, merci
je rêve toujours un moment quand tu fais ça William, je rêve qu'à un moment il y a un doigt vraiment qui apparaît de l'autre côté. Ouais. Et soudainement c'est une autre histoire qui commence.
Comme tout à fait. Alors,
exactement. Si vous êtes là ce soir, eh bien, c'est parce que vous participez à un grand, grand anniversaire sur 50 ans de jeu de rôle. Et c'est notamment un anniversaire, un grand gâteau, beaucoup de bougies qu'on allumera avec de la boule de feu. Mais surtout, eh bien, c'est que c'est un colloque universitaire qui va commencer à célébrer, à fêter, ou célébrer dans le vrai sens français du terme et pas dans son anglicisme. Donc, c'est cet auguste âge où soudainement, on se rend compte qu'un loisir d'adolescent réussit à franchir l'enceinte d'une université. Alors, ce n'était pas la première fois. Et dans un pays qui n'aime pas son pays d'origine. Alors, je vous laisse la parole pour alors Justine, peut-être pour rebondir là-dessus.
Oui, alors rebondissons, effectivement.
N'hésite pas à te présenter également, parce que j'ai présenté sur William et Laurent, mais c'est la première fois qu'on te voit à l'antenne ici sur RollisTV.
C'est vrai, écoute, je suis ravie que ma première fois soit avec vous. Voilà. Pourquoi pas, après tout. Donc, je suis Justine Breton, je suis maître de conférence en littérature. J'ai choqué William, pardon.
Choqued. Oui,
ouais. j'ai cru voir un chocage, oui, tout à fait.
Effectivement. Donc, je travaille à l'université de Reims sur la littérature et le médiévalisme, donc le médiévalisme et la fantasy, les réécritures du Moyen-Âge et les adaptations du Moyen-Âge, alors principalement dans l'audiovisuel, hein, les séries, les films, etc. Et aussi, en grande partie, dans les pratiques ludiques, donc les jeux et les jeux de rôle. Et c'est là que tout a basculé, globalement. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la présentation. C'est comme ça que j'ai rejoint cette équipe. Et effectivement, là, c'était l'occasion de profiter, on va dire, hein, de cet anniversaire absolument énorme pour approfondir les questions de jeu de rôle et l'histoire du jeu de rôle. Alors, en France... Et pas seulement, parce que tu l'as dit, hein, c'est pas son pays d'origine, mais on a quand même une grande tradition en France de jeux de rôle, avec des parutions et avec des communautés de joueurs qui sont particulièrement dynamiques. Donc, la preuve hein, pour voilà, ceux qui sont présents aussi ce soir. Donc, c'est l'occasion de continuer à faire se rencontrer un petit peu tout ce petit monde, à la fois les joueurs, les joueuses, tous ceux qui sont dans les pratiques et les gens qui étudient ces pratiques et la construction des jeux. Donc ça promet des échanges assez, assez sympas.
On va parler du programme tout à l'heure. Alors, je le précise hein, tout de suite à ceux qui nous écoutent. Donc, ce colloque, il est la semaine prochaine. Il sera retransmis... Oui, ah mince, il sera retransmis, il y aura une captation qui va être faite et vous pouvez compter sur RollisTV pour faire les liens et pour donner les liens. Donc, vous aurez l'occasion d'écouter tout ce qui va être dit en podcast sous la douche, enfin, comme vous voulez.
Les liens, on les a diffusés. Je me permets de prendre la parole comme ça se passe à l'Université de Lorraine. Donc, on les a mis... je crois que c'est sur Modernité médiévale, non, il doit y être, et puis c'est sur le site du CREM, et donc effectivement, ça va être entièrement capté, streamé en live, et disponible sur ULTV, donc Université de Lorraine Télévision, hein, ils ont un site spécial pour ça.
Alors, on a Sanier qui est dans le forum. Salut. Tu as tes billets pour mettre, donc je pense que tout le monde sera content parce que Sanier, donc, tu vas intervenir. Monsieur Maléfice, hein, tout à l'heure,
on verra. Un de nos intervenants, ouais. Voilà, et maître de jeu.
Quand on va parler dessus. Alors, cette idée de vouloir faire ce colloque, alors qui d'ailleurs s'intitule à la base « Vous êtes dans une auberge ».
Vous êtes dans une taverne.
Et justement, j'ai une question à vous poser. Parce que c'est une question qui me taraude régulièrement. C'est que lorsqu'on regarde les scénarios officiels, les débuts de scénarios dans les tavernes sont très, très rares. C'est-à-dire, souvent, en fait, on ne s'embêtait même pas à ce qu'il y ait une taverne. C'était « Vous êtes devant ». Et qu'est-ce que ça représente, le « Vous êtes dans une taverne »
Alors là, pour le coup, ça c'est une question intéressante, hein, mais je pense que c'est, à mon avis, c'est lié à l'aspect déjà social en fait, hein, du jeu de rôle en fait, hein, c'est une pratique sociale, une pratique à plusieurs. C'est vrai qu'en fait, limite, on aurait bien aimé avoir une communication là-dessus, en fait. On n'en a pas, en fait, hein, voilà, sur la taverne, l'image de la taverne dans le jeu.
Pour une deuxième édition.
Mais ouais, pourquoi pas, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est assez fascinant parce qu'on l'a quand même souvent, cette imagerie-là, mine de rien. Ouais. Et à mon avis, c'est aussi dû au fait, il y a toute une imagerie hein, que, bon, Justine, Laurent et moi, on travaille beaucoup là-dessus, en fait, hein, sur le Moyen-Âge imaginaire, sur les représentations du Moyen-Âge. Et il y a un côté... au Moyen-Âge, des gens, en fait, il y a un côté un peu carnaval, quoi. Au Moyen-Âge, on faisait la fête, quoi, en fait, voilà, quoi. Et donc, le jeu, c'est une espèce de carnaval. Donc, après, si on part un peu en sciences sociales, c'est une forme de rite d'inversion, c'est un ailleurs, quoi, en fait, voilà. Donc, voilà, la réalité, elle est un peu triste. Dans l'imaginaire, on fait la fête, quoi, en fait. Hein. Et l'imaginaire, il est lointain, c'est un ailleurs, donc c'est le Moyen-Âge, quoi, en fait. Hein. Donc, à mon avis, c'est lié à ça. Mais en fait, quand on a décidé du titre, je pense pas qu'on avait réfléchi à tout ça, sincèrement, mais ça faisait vraiment, en fait, c'était un truc genre, ça faisait début de partie, quoi, en fait, voilà, quoi. Ah, vous êtes dans une taverne, qu'est-ce que vous faites, quoi, en fait, donc...
Je m'adresse juste au chat, est-ce que, si dans les chats, vous avez des exemples de scénarios qui commencent dans des tavernes, n'hésitez pas à le mettre, parce que moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, j'en ai un en tête.
J'ai mené des scénars qui commençaient dans des tavernes qui finissaient très vite dans des tavernes parce que ça partait en vrille. Voilà.
Et puis il y a un avantage avec la taverne, c'est que quand tu commences une partie avec un groupe, justement des gens qui, des nouveaux personnages qui se connaissent pas, ça fait prétexte. Voilà, il y a une raison de rencontre un peu, voilà, côté plus ou moins hasardeux, les personnages qui se rencontrent dans la taverne. Voilà. Et puis il y a effectivement social.
Je pense que c'est aussi un trope qui s'est auto-nourri parce que ce cliché de la taverne est pleine, sauf il y a une place à la table des joueurs qui est vide, et là s'assoit le magicien et vous dit tenez les gars, est-ce que vous voulez faire.
Dans Shadowrun, hein, y a quelqu'un qui fait la remarque aussi. Moi, toutes mes parties de Shadowrun ont toujours commencé dans un bar, hein, donc je ne sais pas ce qui s'est passé.
Mais je pense que le bar est l'endroit très pratique. Il y a des tavernes connues dans l'univers de Donjons et Dragons. Je pense notamment à Waterdeep, le portail béant. Mais c'est ça. Et Shadowrun, par exemple, c'est un petit peu plus tard dans la pratique du jeu. Donc c'était juste à creuser.
Il n'y avait pas un supplément de GURPS où en fait c'était une espèce de taverne où les portes ouvraient sur différentes dimensions. Il n'y avait pas un truc comme ça.
Ça me dit quelque chose. Le début d'aventure est devenu effectivement un cliché. C'est Sébastien qui nous dit l'alcool conserve. Oui, tout à fait. Et ça conserve également très bien les corps. L'alcool. Donc, voilà, il y a ça, cette boîte qui arrive il y a très très longtemps. Donc là, c'est la version française. C'était à l'époque où les boîtes, il ne fallait pas marcher dessus. Hein. C'est autre chose. La plupart des exemplaires ont vécu. Ils ont pris le soleil quelque peu. Et comment, justement, pour revenir à l'idée de ce colloque, comment on se dit, bon, on va le faire. C'est parce qu'on voit les 50 ans, parce que c'est quelque chose qui trotte dans la tête.
Comment ça s'est passé vraiment? Il y a presque 3 ans, William qui a eu une idée. Alors, je ne sais plus si tu m'as envoyé un mail ou si on s'était croisé et tu m'as dit c'est bientôt les 50 ans, il faut qu'on fasse un truc. Et voilà, ouais. C'est... Je sais plus.
Non, puis après, c'était... Mais en fait, c'est parce qu'en plus, on avait participé à une journée d'études ensemble, en fait, ouais. Laurent et moi, en 2017. Et en rentrant, en fait, hein, c'était à Boulogne-sur-Mer, et en rentrant par le TGV, on a commencé à causer, puis on s'est aperçu que nous faisions partie du même culte, la même secte, c'est-à-dire la secte des vins. Voilà, donc, en fait, et je pense qu'à partir de là... puis après, moi, il y a un petit côté... vengeance personnelle, voilà. Donc, parce que non, mais
t'as des choses à exorciser.
Si vous saviez. Non, mais parce qu'en fait, moi, je, alors, voilà, on est de trois, disciplines différentes. Hein. Justine, elle est en littérature, voilà. Donc, Laurent, il est en sciences de la com, voilà, et en mythologie. Et moi, je suis en histoire, et les historiens en fait ont quand même une capacité à se la, voilà, souvent à se la raconter un peu. Et c'est vrai que j'ai commencé à vouloir, quand j'étudiais du médiévalisme, à parler de jeux de rôle et de Moyen-Âge imaginaire, en fait, hein, y a pas mal de collègues qui m'ont regardé avec des yeux genre voilà. Alors qu'en plus, ce qui est assez délirant, c'est qu'en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que beaucoup de collègues, en fait, historiens et historiennes, sont des rôlistes, en fait, hein, mais le cachent. Voilà, donc, en fait, le truc, c'est que... Et donc, en fin de compte, me dire, bon, bah, on va faire un colloque pour dire, non, en fait, cet objet d'étude-là, des jeux de rôle, il est légitime, et il est hyper important en termes d'études de la culture populaire et des représentations, d'histoire des représentations. Je pense que c'était une forme de vengeance.
Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, le jeu de rôle s'était appelé fiction ludique, ouais. Si en fait dans le terme jeu de rôle il n'y avait pas eu le terme jeu, n'aurait-il pas eu une autre approche, justement, un autre accueil?
Ouais, je sais pas.
Je suis pas convaincue parce que moi je bosse aussi beaucoup sur les séries télé et les dessins animés. Il y a pas le jeu dedans et on te regarde aussi bizarrement. Ah ouais, c'est du travail, bien sûr. Ouais.
Alors, j'ai envie de dire, chacun son tour. Le jeu de rôle commence à être reconnu, les séries, voilà.
C'est ce qui t'inquiète, on y bosse.
Oui, ça vient, la BD, toutes les productions de la culture populaire ou des industries culturelles et créatives. Hein, c'est maintenant, maintenant, ça y est, on y arrive, on publie des choses, mais ça a mis du temps et ça va de pair en fait avec la place que ça a pris médiatiquement. C'est-à-dire, parler aussi d'une forme de culture geek qui a pris de plus en plus de place dans la sphère culturelle, enfin dans la culture en général, et c'est allé de pair. Je veux dire, parmi les gens, on va dire, qui nous ont précédés, et notamment Anne Besson, avec qui on collabore souvent, qui sera présente au colloque, elle a travaillé sur la fantasy assez tôt, elle a participé à rendre aussi cet objet d'étude légitime à l'université. Mm-hmm. Et puis après, il y a eu plusieurs personnes à cette époque-là, Vincent Ferré aussi, et d'autres, qui ont fait que aujourd'hui, on a cette place, on a cette légitimité à l'université.
Nous, on arrive au bon moment.
Oui, donc,
ça va. Ouais, c'est
Anne, elle a défriché quand même. C'est,
ouais. Anne Besson, ouais. Vincent Ferré, toute cette génération-là. Nous, on a moins à lutter quand même grâce à ça.
Oui, c'est.
Même si on a eu droit à nos réflexions aussi.
Oui. Quel genre de réflexion, par exemple, que tu peux avoir?
C'est pas du travail, c'est du jeu. En fait, tu t'amuses. c'est pas vraiment. Comment? C'est pas aussi chiant, je sais pas, que d'autres sujets qui sont plus sérieux, voilà, des trucs comme ça.
Mais attends, c'est pas notre faute si les gens ont pas su choisir leur domaine de spécialité et qu'ils travaillent sur des trucs chiants, écoute.
Oui, là aussi.
Je me permets juste, parce que depuis tout à l'heure, on dit, c'est un colloque qui va être important. Il y avait eu aussi un colloque 40 ans de jeux de rôle.
Oui, tout à fait, c'était pas le premier.
C'est pas le premier. Faut aussi rendre à César ce qui est à César. Ils avaient publié des actes, c'était jeux de rôle, laboratoire de l'imaginaire, si je dis pas de bêtises, donc il y a eu un avant aussi. Et d'ailleurs, je crois que parmi ces gens-là, il y a ceux qui organisent le deuxième colloque à Paris, hein, donc on parlera.
Oui. Et puis il y avait les travaux d'Olivier Caïra aussi.
Parmi les prédécesseurs, évidemment, sur le jeu de rôle, Olivier. Ouais.
On jouait avec l'histoire, tous ces livres, tous ces livres
qui étaient.
Et alors, Comment est-ce qu'on 50 ans de quelle remarque reçoivent ceux qui étudient le cinéma? Alors moi, pour ma part, je fais un cours d'analyse filmique. Quand je dis que j'ai fait Once Upon a Time in Hollywood avec Brad Pitt, je sens quand même des collègues, ah, ça doit être pas mal. Voilà.
Ça dépend quel cinéma on étudie en fait.
Ouais, c'est voilà. Ça. Il y a un aspect comme ça déjà, et puis le cinéma, parce qu'après, voilà, en plus, ça dépend encore une fois des disciplines. Hein. Il y a des disciplines plus détendues que d'autres, voilà. Donc, non, mais vraiment là, pour le coup, moi, chez les historiennes et les historiens, il y a un peu la grosse tête, parce que c'est bon, bref, pour des raisons historiques, à ça en fait. Hein. Alors, en tout cas, en France, mais. Ouais, le cinéma, ça dépend complètement du type de cinéma qui est étudié, quoi, en fait. Donc, voilà, quoi. Ouais.
Alors, Sani, justement, nous précise qu'il y avait eu un colloque sur le jeu de rôle en 2015, un autre en 2017, et aussi en 2020 à l'Université de Lausanne. Et d'ailleurs, je crois que vous avez des membres helvètes. Alors, en plus, bon, il y a Sani, mais si je ne me trompe pas dans les personnes que vous avez dû avoir Isaac que j'ai vu passer à un moment ou à un autre.
Dans le comité scientifique.
Comité scientifique. Ouais. Qui était passé sur Rollis TV, on vous renvoie à la vidéo qu'il avait quand il était venu, qu'on nous expliquait sur les architectures des livres dont vous êtes l'héros. C'était absolument, absolument passionnant.
Alors, Gaspard Turin aussi, qui était un des organisateurs du colloque de 2020 à Lausanne, qui était aussi
l'équipe s'agrandit. Donc, comment est-ce qu'on décide, parce que évidemment. C'est pas venez raconter vos aventures, ce qui est généralement très très pénible pour ceux qui ne les ont pas vécues. Venez raconter vos aventures. Comment est-ce que vous décidez d'aborder tel ou tel axe en amont pour ce genre de forum, enfin, sur ce genre de colloque, pardon.
Bah, vas-y Laurent, peut-être tant que t'es parti.
Alors là, on a visé assez large, même si on s'était donné un axe qui était justement historique, c'est-à-dire qu'on l'idée, c'était de revenir sur 50 ans de jeu de rôle, quoi. Se poser la question un peu de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 décennies. Et après, avec nos spécialités, et puis avec toutes les idées qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire dans le monde des jeux de rôle de manière générale, qu'est-ce qui a été important. C'est pas que les jeux, c'est pas que les éditeurs, il y a les magazines aussi. Donc on avait un axe sur les médias. Il y avait les imaginaires qui étaient liés, donc le médiévalisme dont on a déjà parlé. Et puis après, évidemment, l'évolution des jeux, qui sont les gens qui ont travaillé dedans. Attends, j'ai les axes sous les yeux. Donc comment les univers ont évolué, ce qui est encore une autre question, parce qu'il y a des univers qui ont évolué sur le long terme. Alors, pour Donjon, on peut penser aux Royaumes oubliés, hein, chaque édition, en fait, ça fait avancer le métaplot. Les emprunts, les influences culturelles qui sont là quand même des choses sur lesquelles nous on travaille et du coup qu'on a envie d'entendre. Donc voilà, on a essayé de viser suffisamment large sur quels pourraient être les angles importants qui nous viennent en tête. Et puis je pense qu'on a quand même brossé.
Et à quel moment vous pensez dans l'évolution du jeu que le jeu a soudainement eu la maturité ou le matériau nécessaire pour se retourner sur lui-même et commencer à faire cette analyse universitaire? C'est une phrase longue.
On a une réponse en bas, apparemment.
Ah, la réponse est en bas.
Premier livre. Un vrai livre à lire. 1983, Shared Fantasy. Le livre de Gary Allan Fine, qui est en fait une ethnographie du jeu de rôle. Par un sociologue qui est un spécialiste de Goffman, en plus un grand sociologue, en fait, Gary Allan Fine aujourd'hui. Et en fait, il fait une ethnographie du jeu de rôle, il fait un terrain de recherche en 81, si je ne dis pas de bêtises, sur 80-81, il étudie un club, il joue à des tables, et en fait, il en fait une véritable étude ethnographique. Et pour moi, ça reste encore une des meilleures ethnographies du jeu qui existe aujourd'hui et qui a à lire comme exemple. Finalement assez tôt le jeu de rôle les sociologues
et excuse-moi Laurent, mais en fait c'est pas si étonnant que ça quand on sait qu'une partie des rôlistes de la première génération étaient issus de milieux intellectuels universitaires. Voilà, et donc, et même quand on regarde par exemple, moi je travaille quand même pas mal ces derniers temps sur, sur RunQuest, où par exemple j'ai aussi fait une intervention sur c'est bizarre, et j'ai fait une intervention aussi sur, sur Château Falkenstein. On se rend compte en fait que c'est des créateurs, en plus ils sont tous en Californie, ils sont tous dans le coin de Berkeley et tout, et donc ils ont une espèce de retour très intellectualisé sur leur pratique en fait, hein, et très théorisé. Alors après on pense là, on peut analyser leurs théories, voilà, et tout. Ça, c'est ça qui est... Mais en fait, il y a vraiment une réflexion qui est assez forte très tôt. Peut-être moins du côté de Lake Geneva, donc de TSR, en fait, où là, c'est un autre milieu, en fait. Hein, donc, mais encore, en fait, hein, je veux dire, c'est mine de rien, voilà quoi. Donc,
ça arrive plus tardivement, quoi.
Oui, peut-être, mais en fait, voilà, mais quand même, il y a quelque chose qui se, il y a beaucoup de discussions qui se font et tout, donc c'est.
Là, par exemple, c'est ce que je montrais hors antenne. Donc, en 1990, on a la Bible. C'est intéressant. Puis, c'est intéressant aussi, par exemple, c'est The Role Playing Gamer. Et là aussi, on voit qu'il y a au niveau des terminologies, c'est plus un terme du tout qu'on emploie, et donc on sera plutôt du, et là on parle évidemment de l'arrivée de vampires, on parle de différents jeux. De toute façon, j'en ferai une, et l'anatomie du jeu de rôle, donc qu'est-ce que le jeu, et puis on fait aussi une espèce de grand bouquin critique, si je veux jouer à tel jeu qu'est-ce que je peux utiliser. Et il y a eu deux éditions, donc, et c'est vrai qu'en France, nous on n'a pas eu cette même approche. Alors pourtant, de manière très étonnante, en France, on a une grande diversité de jeux. Il n'y a qu'à voir les articles américains, 5 jeux qui ne sont pas Donjons et Dragons, qui nous sembleraient, pour nous, communauté ludique française, totalement improbable.
Alors, sur le cas français, c'est peut-être un... Ouais, moi, en fait, le truc, c'est qu'il faudra regarder aussi, parce que ça, c'est pareil, quand on pense aussi à la réflexion sur la réflexion critique sur le jeu, et ça, là-dessus, bon, tu vas sans doute le montrer, hein, mais évidemment, Playing at the World de Peterson, en fait, hein, c'est une bible.
C'est miroir.
Parce que...
Sortons tous notre exemplaire.
Voilà, tout à fait. parce que, en fait, le truc, c'est que c'est... Lui, il s'appuie quand même, ça c'est hyper intéressant, il lit beaucoup, il a beaucoup lu les fanzines de l'époque. Mmh. Hein, et les fanzines, en fait, donc à l'époque où il n'y a pas Internet, c'est comme ça que le monde des joueurs et des joueuses communique entre eux. Et en fait, on se rend compte qu'eux-mêmes ont beaucoup de réflexions par rapport au jeu, quoi, en fait. Et c'est pas juste, tiens, je vais mettre des nouvelles caractères de monstres, en fait. Alors, ils le font aussi, parce que sinon c'est pas marrant. Mais il y a aussi des textes de réflexion et tout, assez rapidement. Et aussi des courriers des lecteurs, des choses comme ça. Et tout. Donc, ce qui fait que tout ça, on se rend compte que c'est quelque chose de très vivant. Surtout qu'en fait, bah, vu que le principe du jeu de rôle, c'est le homebrew, en fait, hein, c'est à construire soi-même en partie. Mm-hmm. Et donc, bah, concrètement, ça implique, les gens s'impliquent beaucoup dessus, en fait. Hein, donc,
et d'ailleurs.
Justement, je rebondis sur une question qu'il y avait dans le chat, hein, qui dit est-ce que penser sa pratique, c'est pas déjà enterrer le hobby? Je pense que justement, s'il y a bien un hobby, un loisir qui a ce côté réflexif, c'est justement aussi le jeu de rôle, parce que on est déjà dans quelque chose de très approprié, de fait maison en grande partie, ce qui fait que, bah, de fait, quand on réfléchit à comment on joue, ça peut nous permettre aussi d'approfondir le jeu. Je sais que moi, depuis que j'étudie le jeu de rôle, je joue de façon très différente. Je ne suis pas sûre de mieux jouer, hein, ça, voilà. Mais de façon, en tout cas, très différente. Et voilà, parce que c'est un loisir qui est déjà quelque chose qui va s'adapter justement à chaque table et à chaque joueur. C'est cool.
Je viens d'apercevoir que j'ai un de mes joueurs qui est dans le chat.
Ah, bah, tu peux lui dire bonjour.
Bonjour. Bonjour Bobby. Voilà.
Également, donc, alors là, je continue à montrer, par exemple, on avait eu ces jeux Fantasy Freaks and Games Gaming Geeks comme livre, pardon.
J'ai l'impression qu'il est venu piller ma bibliothèque, c'est très bizarre.
Retourne-toi, ils ne sont plus là.
Oh Dieu.
Voilà. Game Wizard, donc là, ce qui marque quand même aussi universitairement, c'est MIT, donc ça va, on a connu pire, donc qui crée un label de jeu, d'ailleurs sous la direction de Peterson, et qui a sorti, donc ça c'est le dernier plus gros livre, Sturask, avec une approche, celui-ci, très intéressante, parce qu'il ne va pas présenter de manière exégétique les jeux, il va prendre tous les jeux auxquels il a joué et il va donner un avis critique, ce qui est aussi, ça évite une certaine redondance. On a également donc Shannon Apple Klein, donc ils sont derrière toi, Laurent, donc Designers and Dragons.
Et je peux aller les chercher. Hein.
Non, si tu le souhaites, parfois j'évite toujours de demander aux gens de. Aux gens de se déplacer parce que parfois ils sont en caleçon et donc
non, c'est je rassure tout le monde, ce n'est pas le cas.
Voilà. Et c'est vrai que quelque part nous on aurait aimé en France avoir un tel outil de, enfin autant de références sur l'histoire du jeu. On a certes eu Julien Pirou qui a fait l'histoire du jeu de rôle, mais c'est vrai que Je n'arrive pas, en fait, peut-être, est-ce parce qu'il y a eu les histoires d'ego, il est difficile de voir, de trier le bon grain de livret. Par exemple, Ben Riggs le dit lui-même, il dit de toute façon, c'est très très difficile de savoir qui a fait quoi, puis on sait bien là, ce qui s'est passé pour Donjons et Dragons. Et comment est-ce que justement, quand on. Alors, tiens, on reviendra sur cette question en RW. Comment est-ce que on. Lorsqu'on voit toute cette bibliothèque que vous avez qui se forme, vous réussissez à... Dans quelle mesure, pardon, vous prenez ce qui est typiquement américain et vous voyez ce qui peut être appliqué, ce qui n'est pas applicable. Si vous voyez, si on peut trouver des traits communs, et sinon également avec ce côté... Il y a la distance, par exemple, aux États-Unis, il y a toutes ces choses-là par rapport à cette pratique très sociale du regroupement des joueurs. Je sais.
Non, mais là, c'est une question qui est. Alors, je pense, c'est pas un des axes qu'on a opté qu'on a creusé en fait pour le colloque. En fait, hein. Vraiment, on a. Mais c'est vrai que c'est quelque chose. C'est un point de vue intéressant parce que, en effet, quand on regarde, même moi, là, je parlais plutôt de quelque chose qui m'intéresse parce que là, tu parles beaucoup de sociologie des joueurs et des joueuses. Alors moi, je suis pas sociologue, donc voilà, donc je trouve que la sociologie, c'est des gens bizarres, en fait. Voilà, donc c'est. Voilà, donc,
tu sais quoi on sait qu'un étudiant en sociologie.
Ah,
t'inquiète
quoi
pas, il va te le dire.
C'est pas faux. Donc non, mais sérieusement, ce qui est intéressant, par contre, c'est, je pense, c'est au niveau des représentations et de l'imagerie qui est. Moi, j'ai failli proposer une intervention, une communication sur l'élite, hein, parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est un univers qui est, pour le coup, qui est assez déroutant, je pense, par rapport à des publications américaines, en fait. Hein, donc, voilà. Moi, je trouve ça intéressant, mais je pense, par exemple, même à des jeux comme des jeux très très dark en fait, hein, donc comme Cult par exemple en fait, hein, donc qui est un jeu suédois si je me rappelle bien.
Ouais.
Voilà, donc je pense que ça, il y aurait plein de choses à faire sincèrement en fait, hein, parce que c'est pas c'est un point, ou Aquelar par exemple, hein, le jeu espagnol en fait, hein, donc voilà, donc je pense que ça pourrait être un thème intéressant à creuser, mais c'est pas quelque chose qu'on a choisi de traiter pendant le colloque, parce qu'en fait, ça montre la richesse du sujet, en fait. Hein. C'est qu'il y a tellement de choses, le corpus, il est devenu tellement immense en termes de jeux de rôle, que, ben, voilà, quoi. Donc, et en plus, hein, quand on parle de corpus de jeux de rôle, il y a à la fois, et ça, Laurent et Justine l'ont bien dit, en fait, hein, il y a à la fois les jeux, les magazines, les fanzines, les interviews, les forums, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire, c'est énorme.
Les pratiques de joueurs.
Et les pratiques, en fait. Donc, c'est énormissime sur le côté. Et puis après, pareil, l'imagerie, voilà, donc les boutiques, enfin, voilà, c'est énorme. Quoi,
et justement, il y a une chose, parce que là, c'est quand il me faisait penser, il y a eu l'aspect très polymorphique du jeu de rôle, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, en France, on avait 4 magazines en presse. Quand le jeu de rôle s'effondre, mondialement, puis en France, bon, on a eu des circonstances en plus. Finalement, il prend le maquis, il va sur Internet et il va devenir peut-être beaucoup moins visible, mais il va devenir très, très, très prolifique. Puis après, les choses commencent à revenir. Quelle est pour vous une des périodes que vous trouvez les plus intéressantes, que ce soit d'ailleurs en France, que ce soit ailleurs, dans le jeu de rôle?
Bah, moi, je vais avoir une réponse un peu, enfin, provocatrice, je sais pas, mais moi, j'ai beaucoup aimé de façon très récente la situation actuelle, notamment en 2020-2021, qui a fait qu'il a fallu faire évoluer aussi les pratiques et la façon dont il y a plein de communautés de jeux de rôle qui sont passées en visio, qui sont passées en ligne, alors avec des tables qui existaient déjà, qui se sont retrouvées avec, voilà, par Skype ou des choses comme ça, mais aussi d'autres groupes qui ont démarré avec cette contrainte supplémentaire qui était qu'on est confiné et on ne peut pas bouger de chez nous. Et le fait de voir que les pratiques de jeu non seulement se sont poursuivies, mais en plus parfois se sont déclenchées à partir de ce qui était une contrainte internationale. Voilà. Alors, je suis pas sociologue, donc j'ai pas étudié la question, mais je trouve ça assez.
Tu viens de le dire que tu n'étais pas.
Exactement. Mais je trouve ça assez assez fascinant et ça montre justement cette vitalité aussi du jeu. Hein. Tu parlais d'un moment où ça a été plus faible, etc. Mais là, alors que tout était contre la pratique et ce côté très très chaleureux du jeu de rôle, il y a plein de communautés qui se sont relancées et qui perdurent. Alors, je sais bien que c'était il n'y a pas si longtemps, mais tenir une table sur 4 ans, c'est pas si simple, en fait. Oui. Donc, voilà, il y a quand même c'est quelque chose de très récent. Je ne dis pas que c'est la meilleure période ni de l'histoire, ni de l'histoire du jeu de rôle, mais il y a un côté très fascinant, je trouve, dans ça.
Alors, on a Yann qui dit « J'ai jamais autant joué que depuis le confinement. »
Exactement.
Et d'ailleurs, oui, il joue avec moi, donc. Merci. C'est lui, mon joueur. Et c'est vrai qu'en fait, on joue beaucoup, quoi, en fait. Donc,
c'est. C'est pour le boulot.
Non, mais c'est pour le boulot. C'est oui, tout à fait. C'est... Non, pas du tout. Là, je.
Ah. Alors, comment s'appelle ton invité, Laurent?
Il s'appelle Senbei. Il est passé à la télé à Rolix TV aussi.
Voilà, non, mais ce sont les chats sont les amis des podcasts.
C'est une amie du podcast. Toriyama qui nous a quittés il y a pas longtemps.
Effectivement. Ah ouais. Effectivement. Alors, on va regarder un petit peu, puis on va continuer à développer cela. Donc, voilà. Donc, voilà le. Alors, je suis désolé, l'image ne sera pas forcément très très grande, mais on va continuer à lire. Donc, notre colloque 27 et 28 mars. Vous êtes dans une taverne. Retourne sur 50 ans de jeux de rôle. Alors, c'est très intéressant. Donc, Pierre Rosenthal sera très heureux parce que vous n'avez pas mis de S à rôle. Il y avait eu ce débat sur doit-on mettre un S, le S à rôle ou un X à jeu. Enfin, c'était un autre débat. Donc, ça se passe sur...
Ça fait partie du développement de, voilà, d'un domaine aussi universitaire. Tu vois, on parlait du terme « gamer » qui a évolué. Au bout d'un moment, la terminologie se fixe parce qu'on parle aussi des concepts et de tout ce que ça implique. Donc voilà, petit à petit, on arrive à un consensus. Et puis un jour, quelqu'un mettra un coup de pied dans la fourmilière et dira « Mais non, mais il faut mettre 4 S à rôle parce que c'est plus intéressant, je sais pas. »
C'est... Et donc, rôliste hein, était dans le dictionnaire, hein, donc, qui était dessus. Et je crois que c'était Pierre Rosenthal aussi qui avait pas mal milité dessus. Pierre, d'ailleurs, si tu nous entends et si tu nous regardes en replay, n'hésite pas à mettre un petit mot sur dans les commentaires. Et alors, donc, tiens, on a Clock qui dit « Moi, j'ai repris en 2019 et en 2020, mes parties ont explosé, notamment parce que ça m'a permis de créer des tables » et avec des connaissances à travers la France. Et c'est vrai que ce confinement a aussi, tout en renforçant le côté social, a permis aux joueurs de rentrer dans la pièce. Avant, on jouait qu'avec des cercles d'amis, où on devait se rendre dans un lieu, une association, pour jouer avec des gens qu'on ne connaissait pas. Et là, soudainement, ça a été l'inverse. Et l'actual play également a permis de casser la porte.
C'est ce que j'allais dire. En plus, l'actual play, moi, ça. En plus, c'était avant le confinement. C'était un peu. C'était... J'ai commencé à en regarder, en fait, 6-8 mois avant le confinement. Et en fait, moi, ça a été d'une. C'était une découverte assez extraordinaire. Et en plus, ça m'a aidé, moi, en plus, en tant que meneur, en fait, hein, parce que je voyais des trucs. Je dis, ah ouais, c'est vrai, on peut. Et c'est marrant parce qu'en fait. On avait plein de conseils pour les MJ avant, donc plein dans les magazines, dans les jeux et tout. Et en fait, c'était des trucs que j'aimais pas trop lire, en fait. Et puis là, les actuels plays, en fait, ça a été des mises en pratique. Quelque part, ça m'a permis de... Mais c'est vrai, ouais, c'est... Après, en fait, pour revenir sur les périodes, en fait, hein, je pense que toutes les périodes, en fait, sont... Là, je fais de l'historien, en fait, mais c'est toutes les périodes, en fait, du jeu sont intéressantes. et même la préhistoire, en fait, hein, les années 60 et tout, dont parle Peterson et tout, je trouve que ça, c'est voilà, il y a des trucs, des cristallisations qui se font, qui sont hyper intéressantes à étudier. Et je pense que les 25 prochaines années ou les 50 prochaines années seront aussi intéressantes à étudier. Voilà, rendez-vous pour le colloque des 100 ans, quand on sera tous à l'EHPAD, mais voilà. Mais on...
Exactement. Voilà. Alors, on aura plein de choses à dire, mais on ne pourra plus porter les livres.
Pas de retraite.
Et justement, alors, c'est une chose, parce que tu parlais de l'évolution du jeu, on rappellera dans le chat, c'est que les toutes premières parties de Donjons et Dragons, les joueurs... Alors, le maître de jeu n'est pas à la table, il est en retrait. À certains moments, il y a même des meubles qui occultent sa présence physiquement, il est derrière. Et les joueurs ont une sorte de conciliabule. Et il y a un speaker qui va dire au maître de jeu ce qu'il fait, ce que tout le groupe fait. Ce n'était pas du tout dans l'optique où, maintenant, quand certaines personnes disent « Oui, la narration partagée, ce n'est pas du jeu de rôle. » Mais revenons à la racine. Des gens disent « Mais comment ça, tous les joueurs parlent maintenant mais qu'est-ce que c'est ?» C'est voilà, tout avance, tout prend sa forme. Et moi, je suis d'accord avec toi, Justine. Je pense que ce confinement a changé définitivement, a vraiment ancré, a marqué. On le voit d'ailleurs très bien. Maintenant, dès qu'il y a un financement participatif, on a des demandes auprès des éditeurs. Est-ce qu'il y a de quoi jouer en ligne?
En ligne, ouais. Ce jeu, avec, avant, avec des Roll 20 ou des trucs comme ça, ouais, c'est ça, ouais. Donc, avec des systèmes.
Et d'ailleurs, Monsieur Hasbro l'a bien senti. Alors, donc, nous sommes sur ces deux jours.
Ça, c'est moins drôle.
Oui, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Donc, nous savons qu'à 10h15, il y aura une introduction du colloque. Alors, vous avez 15 minutes pour parler. Et vous êtes 1, 2, 3, 4, 5. Voilà.
Alors, en fait,
comment
c'est possible? Il faut mêler ça à l'ouverture. Hein. C'est l'ouverture et l'introduction. Donc, on en aura 30.
Bon. D'accord.
Mais on sera, du coup, on aura 5 minutes chacun.
Et on n'a pas du tout préparé notre texte encore, donc voilà.
Soyons honnêtes. Bonjour est un...
Attendez, il faut préparer un texte.
Qui êtes-vous ?
On se répartira les rôles. Tiens.
Oui, vas-y, pardon.
Oui, non, mais l'introduction permettra, outre de présenter le sujet dont on a parlé jusqu'à maintenant, généralement, dans un colloque, on présente aussi pourquoi ça se fait à cet endroit-là, le lieu de Metz. Notamment, on travaille sur les jeux depuis un certain nombre d'années, quand même, déjà. D'abord sur les jeux vidéo, plus particulièrement, puis maintenant, toutes sortes de jeux. Et puis après, de présenter tous les partenaires aussi. Parce que il y a plein de partenaires du colloque, notamment Modernité Médiévale, une association qui travaille sur les représentations du Moyen-Âge aujourd'hui, dont Justine est la secrétaire ou chargée de com.
Oui, c'est très bien. Ouais, voilà. Webmestre
aussi. Les différents laboratoires et Ion, un programme de recherche auquel on participe sur l'imaginaire du temps. Voilà. Donc c'est l'occasion de présenter rapidement tout ça.
Donc, on aura aussi... Alors, je regardais également, et on a de très, très belles questions. Alors, oui, Black Shield, hein, oui, c'était bien le cas. Il y avait cette fonction de speaker hein, qui était... c'est ça. Je te conseille de lire le livre Of Dice and Men, qui est un très, très joli clin d'œil à John Steinbeck. Et dedans, en fait, il parle de cela aussi. Et je voulais juste, avant qu'on attaque vraiment dedans, il y a une question que on allait revenir. Enfin, c'est... Est-ce que c'est le confinement qui a fait exploser la pratique du jeu de rôle? On parle même de deuxième âge d'or, pardon. Ou est-ce l'impact des séries comme Stranger Things, les séances Twitch de YouTube avec des influenceurs? Ayant commencé le jeu de rôle au début des années 2000 en milieu rural, c'était vraiment une pratique encore mal connue ou vue comme bizarre pour la majorité des gens.
Oui, mais ça va de pair avec ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, hein, cette façon de déplacer la culture geek en culture mainstream. Hein. Y a Stranger Things, mais on pourrait parler de The Big Bang Theory. Enfin, voilà, il y a d'autres œuvres, d'autres créations qui ont contribué à mettre sur le devant de la scène. Aussi parce que toute cette génération de joueurs, de geeks, etc., certains sont devenus justement scénaristes, réalisateurs, producteurs, et que ça contribue à faire des œuvres qui mettent au premier plan ce qui était des pratiques de garage, de sous-sol, et des communautés un peu fermées.
Et ce qui intéresse... Pardon, Laurent, vas-y.
Ouais, j'ajouterais aussi un truc en fait qui est à mon avis qui joue un grand rôle, c'est ce qu'elle veut dire, c'est que vu quand même les jeux de rôle sont quand même très liés en fait, hein, et ça c'est une question, là c'est pareil, c'est une question qui est intéressante à se poser, hein, ils sont très liés à la fantasy, hein, et toute cette culture en fait, hein, médiévaliste, l'explosion en fait, en gros, du jeu de rôle, bah, même si ça a eu un temps de retard quand même, hein, il y a eu quelques années de retard, mais ça vient avec, après l'explosion au cinéma de la fantasy, en fait, hein, donc, ouais, avec Le Seigneur des Anneaux, et puis Harry Potter, et puis après Game of Thrones. Donc tout ça, ça a eu une espèce d'effet d'entraînement, hein, qui petit à petit en fait, a rendu la fantasy, qui était à l'origine, en fait, hein, clairement, dans les années 70, quelque chose de contre-culturel, a rendu une culture, en fait, une contre-culture comme étant une culture mainstream. Quoi, en fait. Donc, ouais.
Et pourtant, en 1984, Spielberg met en scène une partie de jeu de rôle dans E.T.
Oui,
on s'était dit, on aurait peut-être pu avoir quelque chose, mais bah non.
Mais ça reste très lié à une contre-culture ou un truc qui est associé à la culture jeune, quoi, en fait, voilà, et à la culture geek. Ouais. Alors qu'en fait, à partir des années 2000, quand t'arrives avec le Seigneur des Anneaux et Harry Potter arrivent, en fait, ouais, hein, ça, les codes en fait de toute cette contre-culture deviennent partagés par tout le monde. En fait. Alors après, il y a des raisons historiques à ça, on pourra en parler pendant des heures. Mais le truc, c'est que ça devient partagé par tout le monde. Et moi, je me rappelle, hein, quand je suis allé voir au cinéma en 2002, quand le Seigneur des Anneaux, en 2003, quand le Seigneur des Anneaux, dans 2002, je sais plus. ouais, enfin bon, quand c'est sorti, en fait, hein, moi quand j'y suis allé, pour moi, c'est encore une fois, c'était une espèce de revanche, hein, genre ça y est, quoi, en fait, voilà, quoi. Ça y est, nous, on n'est plus obligé de voir des films de fantasy sur des VHS pourris, quoi, en fait, voilà. Donc on peut voir des films de fantasy avec un énorme budget, en fait.
On peut assumer.
Non, mais c'est exactement ça. Je me rappelle tout le temps de ce dessin de Dark Tower, où c'est à l'occasion du retour du roi. Et donc il y a les personnages. Et il voit, en fait, dans la file de cinéma quelqu'un, puis il se rapproche, puis il dit « tu te rappelles de moi ? J'étais au lycée, t'arrêtais pas de m'embêter et tout ça. » Puis il dit « Ah ouais, ouais. » Puis bon, bah, à la fin, Gollum, il meurt et l'anneau est délai, puis il s'en va. Puis il dit « Ça y est, j'ai ma revanche. » Alors que lui, il n'avait pas encore vu le film. C'était effectivement... oui, il y a ce côté un peu revanche, ou comme quand tu disais du comics, c'était... voilà, on te regardait avec des yeux un peu étranges, mais... Mmh. Chaque chose a effectivement a son heure de gloire. Et donc, quand on revient sur ces...
J'ai une question, j'en profite parce que j'ai pas accès pour répondre dans le chat. Il y a quelqu'un qui parlait d'association de jeux de rôle à trois. Si vous pouvez mettre la référence, ça m'intéresse. Merci.
Oui, n'hésite pas, hein, Justine, si tu as ça.
Je fais mes commandes en même temps. Hein, tu vois,
Et donc voilà, aux États-Unis, Canada, quand tu dis jeu de rôle, 90% on va dire ok, tu fais du D&D. Et quand tu réponds non, je joue à autre chose, ben là tu viens de voir quelque chose, quelqu'un qui s'étonne. Mais de toute façon, c'est ça. J'ai aussi, effectivement, on dira do you play D&D. C'est ça qu'on va dire, hein, de manière. On va dire ça. On va pas dire autre chose. Et puis ben, les grands actual play portaient dessus. Donc on va y arriver. Alors, vous avez parlé. Voilà, maintenant, il est 10h30. Vous êtes dans l'auberge. Donc, raconter des histoires, fabriquer des imaginaires, analyse rétrospective de quelques trajectoires de joueurs de rôle des années 80 à nos jours. Genèse, expansion, continuité au fil des âges de la vie. Moi, j'ai trouvé ce sujet très touchant parce que je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver dedans. Moi, je sais que je suis en partie professeur d'anglais grâce au jeu de rôle, parce que Run Quest 3 par Games Workshop, il fallait bien le traduire. Puis quand tu es en troisième avec ton dictionnaire arabe, ce n'est pas évident. Et puis, ce n'est pas ta prof qui va te traduire Strike Rank. Ça, c'est quelque chose qui s'est imposé naturellement, ce sujet-là, ce thème-là.
Naturellement, je ne sais pas.
Alors...
Parce que ça fait très éminemment personnel, je trouve.
Ça rentre complètement dans la thématique du colloque. Après, il faut savoir, les colloques, donc le comité scientifique fait une sélection et on a reçu plus de 40 propositions.
43, si je me souviens bien.
Ouais, et du coup,
il y en a 17 ou 18.
Ouais. Oui. 17 ou 18 qui ont été retenus suivant une grille. Mais ce thème-là, donc par Étienne Armand Amato, effectivement, c'est une approche un peu... sociologique. Il est aussi en infocom, mais là il fait des entretiens en fait avec des joueurs, et c'est vraiment l'idée de revenir sur des parcours de vie en fait, hein. C'est une approche où on est là sur le l'histoire, cette fois, personnelle des joueurs, comment ils l'ont vécu, comment ça a évolué au fil du temps. Donc, ça s'ancre complètement dans le thème du colloque. Parce que, encore une fois, on a plein d'axes. Ça peut être l'évolution des jeux, l'évolution des communautés, des médias, mais aussi le 50 ans de jeux de rôle, c'est 50 ans de gens qui jouent. Même si tout le monde ne joue pas depuis 50 ans.
De fait.
On a perdu Jim Ward, un des grands contributeurs de Donjons et Dragons en début de semaine, 72 ans. Comme disait Margaret Weiss, c'est un des vieux de la garde qui vient de partir. Hein. L'eau monte, hein, hélas, comme on dit. Mais j'ai trouvé ça très, très touchant, en fait. J'ai beaucoup aimé cet aspect humain. Parce que, tout comme on le disait, il y avait beaucoup de joueurs de jeux de rôle qui ne disaient pas qu'ils en faisaient. Et maintenant, ça a tendance à ressortir. Alors, on a également donc, les suppléments cartographiques. Alors, c'est pas Monsieur Hackey, s'il nous écoute, qui dira le contraire. Donc, les géographies parallèles de l'appel de Cthulhu. Donc ça, je pense que les mots Arkham et Innsmouth vont être prononcés. Hein, je pense. Ouais. Et puis après, on a un dénommé William Blanc, je ne sais pas comment il a réussi à s'inviter. Comment s'invente un univers de fantasy rôlistique, donc le cas de RunQuest, qui est effectivement un cas assez à part, parce que ce RunQuest existe depuis bien plus longtemps qu'existe le jeu de rôle.
Tout à fait.
C'est combien de temps pour en parler? C'est
25 minutes, mais en fait, ouais, je pourrais en
parler. Avant la pause déjeuner, oh là là. Ouais.
En plus, c'est avant la pause déjeuner, mais je sens que mes petits camarades ont fait exprès.
C'est mieux avant qu'après.
Mais ma vengeance sera terrible. Donc, c'est un cas assez extraordinaire. Et en fait, en préparant cette communication, alors je précise au passage, hein, c'était des. Les sélections ont été faites par en aveugle en fait.
Donc, à l'aveugle, ouais.
Le comité scientifique, à l'époque, c'est moi qui proposais ça. En fait, voilà.
Si on avait su, on l'aurait pas accepté. Vous vous doutez bien.
Oui. Et en fait, il y a un dénommé Warner Bros qui vient de faire WB.
Ouais. Donc, c'est RunQuest, c'est un cas assez extraordinaire. Et en fait, plus j'avance en fait plus j'avançais dans la préparation, plus j'ai découvert des trucs. Redécouvert des trucs. Qui sont passionnants. Là, on est vraiment dans un cas de monde et de système de jeu très intellectualisé, en fait, hein, très, très pensé, en fait. Hein, donc, peut-être largement plus que Donjons et Dragons. Et alors, c'est vrai que le premier jeu sur l'univers, c'est pas un jeu de rôle, c'est un wargame. Hein, White Bear and Red Moon, qui sort en 75, et puis RunQuest sort en 78, si je me rappelle bien, ou 79. Voilà, donc, c'est un cas assez extraordinaire qui, en plus, là, pour le coup, ce qui est assez fascinant, c'est que le créateur de l'univers Greg Stafford est mort il y a 5 ans maintenant déjà. Ça passe. Hein. Et en fait, là, son jeu atteint je pense qu'il atteint la maturité qu'il aurait rêvé qu'il atteigne de son vivant. En fait, voilà, parce que là.
Je pense que c'est l'âge d'or de RunQuest.
Ah ouais, là, c'est assez extraordinaire. Puis en fait, je vois tout ce qui est prévu de sortir, je suis là, genre, mais.
Oh et la disparition de Greg Stafford, je me rappelle, j'étais, moi pour ma part, ça m'avait. Je redémarrais d'une aire d'autoroute quand j'ai vu le truc. Et j'ai dit à ma conjointe, prochaine aire d'autoroute, on s'arrête, parce que j'avais commencé à lui dicter pour faire un post Rollis TV. Ouais. Voilà, l'information n'attend pas, monsieur. Et donc, on s'est arrêté à l'aire d'autoroute après, et pour l'annoncer. Et effectivement, ça faisait partie de ces grands monsieur, et puis voilà, vénérable sur plus d'un point. Alors, on va manger. Le repas n'est pas,
okay,
n'est pas précisé. De 12h à 14h, ça va.
Non, mais on est dans une taverne, donc après tout, ça reste cohérent.
Voilà. Et ensuite, on arrive sur l'altérité. Ce que la lumière d'eau aux ténèbres, le monstre horrifique dans l'évolution du jeu de rôle sur table, de l'opposition à l'incarnation. Donc, on devine qu'on va parler de vampire la mascarade. On devine également qu'on va parler des points d'expérience que valait le monstre au début.
Oui.
Oui.
5 TB pour un gob.
On parle pas.
Non, mais ça c'est un cas, pour le coup, c'est un cas hyper intéressant, justement, d'évolution, en fait, hein, de la représentation du monstre, qui répond aussi à des évolutions sociales, voilà, politiques dans le monde réel, quoi, en fait. Donc, ça, c'est hyper intéressant.
Dans des années 90, très sombres, hein, qui étaient.
Oui, tout à fait, ouais. Donc, ouais. Mais ça, c'est, à mon avis, c'est, ça va être une, voilà, en fait, je pense que toutes les communications vont être passionnantes, mais celle-là, voilà, ouais. Voilà, donc j'espère qu'il va glisser un mot sur les orques, je ne sais pas pourquoi.
Mais, voilà. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là, on fait une session sur voilà, ce qu'on a appelé l'altérité ludique, mais en focalisant sur les personnages. Et on va avoir deux communications qui s'intéressent surtout aux adversaires, voilà, à l'évolution des méchants du jeu de rôle et de tous ceux qu'on aime détester et qu'on aime combattre, avec voilà, cette focalisation alors, sur le monstre et... Clairement, on va parler de vampires et l'intervention après d'Albert Lepark sur du brigand médiéval au bandit, voilà, pour travailler aussi sur une autre facette récurrente de différents jeux de rôle. Donc c'est une approche un peu différente, mais c'est intéressant que quand on a demandé des propositions sur les personnages, on n'a pas tant eu de choses sur la création de perso et sur voilà ce que ça implique dans cette évolution et dans cette histoire, mais sur les personnages tels qu'ils sont proposés par les narrations des jeux et ces adversaires sur lesquels on se casse désespérément les dents.
Ce que c'est intéressant aussi dans les évolutions de création de personnages, c'est que auparavant la création de personnages prenait beaucoup de temps, c'était déjà le commencer à jouer, et maintenant l'obligation de modernité en quelque sorte, le personnage prétiré est souvent proposé, c'est j'achète le jeu pour y jouer quasiment dans l'immédiateté. On a des livrets Donjons et Dragons dans la 5e édition, vous voulez créer votre personnage en 10 minutes et vous avez la petite page dessus, alors qu'avant il y avait quand même une projection qui était mécanique, hein. Bien le dire quand même, du mécanique sur la création de son alter ego, comme son alter ego ludique. Là, il sera 15h, pause café. 30 minutes la pause café, quand même. 30 minutes.
Mais dans les colloques.
Il y a au moins, on a du retard tout le temps. Donc...
Oui, non, mais c'est la pause café fera 5 minutes.
Vas-y.
Ouais, mais dans les colloques, en plus, généralement, c'est assez marrant. C'est que, en fait, parfois, on va plus facilement parler avec les personnes au café que. Voilà. Ouais. Quoi, donc, il y a tout un truc, il y a tout un rituel dans les colloques.
Oui, parce qu'il y a moins le stress.
Il y a des règlements de compte aussi. Voilà,
On a Séborak, qui dit ça sera filmé et diffusé en ligne. On précise, oui, hein, tout à fait.
Oui. Sera rediffusé par la suite.
Voilà. Et
il y aura des actes.
Il y a des doublages, il y aura une série. Enfin,
exactement.
Il y aura un actual play. Voilà. Vous êtes dans une taverne, vous devez préparer un colloque.
Alors, on a. Alors, donc, fin de la pause café, et là, on revient émergence et structuration d'une pratique ludique. Donc, là, on va sortir de l'auberge 15h30, le jeu de rôle, histoire d'une subculture. En quête de légitimité. Bon, bah, ce sont les points qu'on a développés. Alors, est-ce qu'on est encore en quête de légitimité? On a Sagné, par exemple, qui expliquait là qu'il y avait augmentation de l'utilisation de jeux de rôle à des fins pédagogiques ou de formation. Alors, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait sur Rollis TV sur jeux de rôle et pédagogie, dans lequel Marion Amar qui expliquait comment elle utilisait le jeu de rôle au lycée. J'expliquais moi-même comment je l'utilisais, les différentes pratiques qu'on peut amener et comment faire peur à une classe aussi, ça c'est toujours sympa. Mais bon, ça c'est autre chose. Et c'est une vengeance, ça s'appelle. À 16h, donc, les mémoires d'un jeu oral, conditions méthodologiques d'une histoire de jeu de rôle. Alors ça m'intéresse, parce que j'ai eu du mal à imaginer le. Ce sur quoi se fondait cette présentation.
Eh bien, il faudra assister au colloque.
Oui, réponse à 16h, le samedi.
Où il est, Arthur. Attendez,
Alors, ça c'est à mon avis, si je me rappelle bien.
Je vous explique, j'ai un petit décalage, parce que quand je regarde l'écran, je suis sur une autre fenêtre, donc je ne vois pas forcément si vous faites des signes ou quoi que ce soit.
Il reviendra, Oui, vas-y, William.
Non, mais je pense que c'était par rapport, en fait, à la comment, si je me rappelle bien, en fait, sa proposition, en fait, hein, c'était par rapport, en fait, à donc, en gros, comment faire voilà, l'histoire du jeu de rôle, en fait, hein, donc, à travers notamment des forums, enfin, en gros, des sites.
D'accord, oui, d'accord. Voilà,
c'est...
Okay.
Et
ouais, c'est
par
ça.
Rapport, en comparaison avec aussi des histoires, entre guillemets, officielles, on parlait oui, des ça. Livres écrits par Wizard eux-mêmes, et même TSR. Hein, TSR faisait des livres d'histoire sur Donjons et Dragons, des livres d'images, etc. Et puis, bah, il y aura une,
oui,
une comparaison entre les deux.
On peut citer le dernier, Lorraine Legends de ouais. TSR, enfin de 5E, qui est une sorte d'élégie à la cinquième édition. C'est juste du factuel avec des jolies images, mais il n'y a aucun appareil critique dessus.
Non. Mais c'est ça en plus, c'est ça qui est intéressant aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a aussi dans le corpus, il y a tous ces textes-là, tous ces forums-là, les fanzines et tout, qui en fait participent de l'histoire du jeu de rôle. Et surtout qu'en plus, aujourd'hui, il y a une tendance de la part notamment de Wizard, en fait, de dire voilà, bah, en gros, Donjons, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est un peu, ça oui. rejoint un peu, voilà, un peu, ça fait un peu Apple, oui, oui. quoi. En fait, les ordinateurs, oui. c'est ça. Alors qu'en fait, l'essence même, en tout cas, le jeu de rôle, comme il était pensé au début, c'est quelque chose qu'on peut bidouiller soi-même aussi, en fait, hein, donc, et créer ses propres règles et tout. Donc il y a une tension qui est intéressante en fait, hein, et c'est une tension qu'on retrouve aussi dans d'autres groupes en fait, hein, dans d'autres pratiques, hein, je pense notamment à l'informatique en fait, hein, donc entre le logiciel libre et puis évidemment les grosses machines.
Alors on a aussi à 16h30, donc coucou Sagné, l'histoire du jeu de rôle au regard de cette vieille institution, hommage à Douglas Adams, le guide du rôliste galactique, donc nos grogs préférés avec leurs fiches et cette présentation. Alors j'avais discuté un petit peu avec des membres du grog, changer la présentation du grog, c'est un travail assez titanesque, donc, mais un jour. Voilà.
Il y a combien de pages sur le grog ? Il y en a des milliers.
Puis quand on plonge dans les pages, des fois, on trouve plus la fin. Et ensuite, nous avons l'évolution historique et analyse bibliométrique de la recherche académique sur le jeu de rôle sur table dans les publications universitaires.
Ouais, voilà. Le titre ne rentre pas tout à fait sur la page. Hein,
ça dépasse, comme vous l'avez dit.
Avec les chevaliers paysans de l'an 1000, l'Oc de Paladru. Voilà,
voilà. Alors, pouvez-vous expliquer ce qu'est l'analyse bibliométrique ? C'est-à-dire quoi ? C'est la charge de... c'est le nombre d'œuvres faites ?
Non, alors là, c'est des publications universitaires, parce qu'en fait, alors, Pascal Martiloni, il a un carnet de recherche hypothèse, donc hypothèse.org, c'est un truc, des blogs universitaires, et en fait, il a il liste avec Zotero toutes les publications universitaires sur le jeu de rôle qu'il trouve. Et en fait, il va nous présenter cet outil. Et il y a, je crois, plus d'un millier d'entrées et on le trouve très facilement. Si vous avez, c'est RPG ou JDR, dans jdr.hypothèse.org.
Ah, c'est et JDR, donc, tu disais, ça s'appelle
jdr.hypothèse au pluriel.org.
Tiens, ce que tu pourras faire, Laurent, c'est que tu me le mettras en chat privé à un moment et puis on va le mettre dedans.
Je confirme que c'est.
Et en fait, du coup, grâce à ça, on a une très très grosse liste de publications sur les jeux de rôle dont Pascal s'occupe, hein, lui-même étant documentaliste. Et en fait, il va nous présenter son outil, il va nous présenter ce qu'il en fait, ce qu'on peut en faire, comment ça peut être utile aux chercheurs, etc.
Alors, si je le partage en message privé, ça va pas aller. Voilà, donc là, vous avez...
Tu as des travail
d'équipe.
Ah oui, là c'est admirable, c'est de l'art à ce niveau-là. Donc ainsi s'achèvera la journée, le soleil va se coucher, la fumée va retomber et le lendemain à 9h30, frais.
Excuse-moi, on va aller manger. Hein,
parce que
le mercredi soir, voilà quoi. C'est
Ça ne sera pas filmé. Hein.
Oui, celui-là ne sera...
Ah bon ?
Celui-là ne sera pas filmé.
Peut-être certains filmeront.
Mais... Ah oui, bah voilà. Mais ça restera. Alors,
nous arrivons sur l'approche transmédiatique. Donc à 10h, nous avons une histoire transmédiatique du jeu de rôle. Alors autant dire qu'effectivement, là, il y a de quoi dire.
Ouais.
Entre les films avec Tom Hanks, le maître de donjon, qui était... Ici, alors ça, c'est le bouquin original de Dungeon Master avec le fameux cas de la. Alors, j'aime beaucoup parce que c'est un livre que j'avais acheté d'occasion, donc c'est Chris qui l'a eu pour ses 15 ans, voilà, qui était dedans. Et donc, c'était le détective privé qui avait été engagé pour trouver James Dallas Egbert, celui qui avait disparu. Il y avait eu un film avec, c'était la même époque, il y a le film avec Tom Hanks, c'est le maître du donjon, là aussi, c'est ça. Et puis, on arrive donc Anne Besson. Ouais. Qui, elle, a dû lire, je pense, beaucoup de livres, qui a été obligée. Ouais. Donc, les romans de fantasy ludique chez TSR 84-95. Ouais. Waouh!
Bah là, c'est les romans de, typiquement de Dragonlance, des Royaumes Oubliés, donc avec Dritz, avec tous ces personnages.
C'était à l'époque où on se moquait de TSR et on disait que TSR devrait arrêter le jeu de rôle et devenir un éditeur de livres. C'est ça qu'on disait, parce qu'effectivement, ça faisait la pluie et ça, non, ça a fait le beau temps, puis ça a fait la pluie après. Ensuite, à 11h, Roland Wagner et la formation d'une culture littéraire holistique, Roland Wagner se rappellera des choses, la rubrique Inspiration littéraire de Casus Belli entre 85 et 99.
Ça va être chouette, ça va être chouette. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, je me rappelle, c'est à travers ça. Faut bien comprendre aussi que le jeu de rôle a été une ouverture. Là, il y a quelqu'un qui disait dans le chat que grâce à Pendragon de Greg Stafford, il avait découvert le mythe arthurien. Bah moi, c'est pareil en fait. Hein, donc, en tout cas, ça m'a voilà. Et donc en fait, c'est pareil. Tous ces inspi dans Casus, en fait, ça voilà. Enfin, Lovecraft, j'aurais jamais lu de Lovecraft s'il n'y avait pas eu l'appel de Cthulhu, quoi. En fait, hein, c'est évident. Quoi, en fait, hein, donc voilà. Ça c'est intéressant aussi qu'en fait de montrer cet aspect-là, que ça a participé en fait hein, d'une culture plus large en fait, hein, qu'on peut appeler culture geek, voilà, donc culture de l'imaginaire.
Nous, on avait reçu ici sur l'ISTV Christian Lehmann, qui s'occupait de Chroniques d'Outre-Monde, et d'ailleurs moi je l'avais remercié personnellement, parce que pour moi, Chroniques d'Outre-Monde avait été une ouverture, parce que le ton était un peu plus acide hein, que Casus Belli, et bah, le comics, je l'ai découvert grâce à Chroniques d'Outre-Monde, ils m'ont donné envie d'en lire, je ne les remercie pas, parce que j'ai... voilà. Mais on était dans une époque pré-internet, et l'accès, il y avait des choses qu'on ignorait totalement, et s'il n'y avait pas quelqu'un qui pourrait en parler, ou si on n'avait pas le bon livre, on était ceux qui jouaient à Néphilim à l'époque, hein, sans rappel, on était perdus. Alors, à 11h30, Philippe Lépinard, que je salue Philippe si tu nous écoutes, 50 ans de jeu de rôle et 200 ans de wargaming, ça y est, c'est la guerre, il y a toujours quelqu'un pour provoquer, c'est ça. Hein,
voilà. Ouais. Alors, il n'a pas rajouté 40 ans de livre dont vous êtes le héros. Mais...
Oui. Il aurait fallu une communication beaucoup plus longue aussi. Hein.
Ouais. Alors, là où il travaille dans son université, justement, ils utilisent énormément tous les jeux, dont le jeu de rôle, dont les wargames, dans la formation. C'est-à-dire que ça sert pour les cours. Je sais que, par exemple, alors, pour l'anglais, hein, vu que toi, tu es voilà, prof d'anglais, ils font jouer les étudiants en anglais. Et du coup, ça fait qu'il y a plus de prise de parole que dans un cours normal. Donc voilà, c'est dans ce qu'ils font là-bas, ils sont toute une équipe. Les usages ludopédagogiques qu'on a évoqués un petit peu avant, c'est-à-dire comment utiliser le jeu dans la pédagogie, ça revient énormément. Et puis,
totalement. De toute façon, Sagné, on avait participé tous les deux, Sagné et moi-même, à un des forums, qui était un des premiers forums d'ailleurs sur la ludopédagogie en... Alors j'avais fait l'ouverture pour ma part, donc qui était en ligne, et c'était extraordinaire de voir qu'effectivement, quand 5 ans avant, ta proviseur adjointe te dit, vous savez, faire un club de jeux de rôle, je voudrais pas qu'ils se mettent à courir partout dans l'internat, et puis que 5 ans après, soudainement, on voit ce genre de choses, on se dit que le vent est dans les voiles. À midi, on ne plaisante pas, c'est la pause. Et là, 13h30, 1h30 de pause. Alors, puis-je savoir pourquoi on passe de 2h à 1h30 de pause?
Parce qu'on essaye de caser tout ce qu'il faut dans les journées, tout simplement. Parce que si tu regardes bien, tout en bas du programme, la dernière journée se termine par quelque chose d'assez cool.
Oui.
Donc, il fallait pouvoir grappiller du temps pour avoir le temps de terminer la journée et le colloque sur... une apothéose, carrément.
Alors, on précise que les soirées jeux de rôle, on va en parler après, ne seront pas, je suppose. Elles resteront dans les secrets. Passe à Metz, reste à Metz.
Exactement. Oui.
Et ce que ne précise pas Justine, c'est que, en fait, plus on avance dans le colloque, moins il y aura de survivants, quoi, en fait, hein, parce que c'est, voilà, il y a un côté comme ça aussi. Donc,
Hunger Games.
Il y a un côté Hunger Games, quoi. Donc voilà, c'est, donc il y aura forcément, il y aura moins de monde pour manger, donc voilà.
Alors, à 13h30, on a un entretien avec Jean Balczézac.
Voilà.
Donc, alors, animé par Laurent. Donc,
je crois, oui, a priori.
quel sera le thème sur le témoignage de ces années-là, du début des années de...
Ouais, voilà, c'est ça, c'est témoignage sur son parcours. Alors, rappelez qui est Jean Balczézac, donc c'est le traducteur en français de l'Appel de Cthulhu, de version 1 à 5, de Star Wars. Il a travaillé pour Cassius Belli et pour les éditions Descartes. Alors, son frère était aussi aux éditions Descartes, jusque dans le milieu des années 90. Donc, je crois qu'il commence en 84. Alors, c'est, on a de la chance, en fait. C'est, Jean, en fait, habite à Metz, enfin, juste à côté de Metz. Donc, j'ai eu l'occasion de le rencontrer l'année dernière dans un festival littéraire. Et on a un petit peu discuté. Et voilà, c'est vraiment pour le coup quelqu'un qui a participé. On parlait avant de l'arrivée en France des jeux de rôle. C'est vraiment quelqu'un qui était au cœur de ça à partir du début des années 80, qui a amené des idées, qui a justement beaucoup participé à Cassius, à aider des gens à mettre le pied à l'étrier, comme il le racontait lui-même, notamment des auteurs comme Tristan Lhomme, qui a fait ses premiers scénars dans Cassius. Et en fait, lui, il était là pour accompagner tout ça. Donc, j'ai pas encore décidé de toutes les questions.
Il y en aura.
Moi, j'invite les gens à aller regarder. Il a fait une interview avec la chaîne Guerre et Plomb. Ils ont une série maintenant qui s'appelle Mémoire de Rôliste. Ça a été fait en février, où il raconte tout ça. Donc, nous, on aura un peu moins de temps, mais... Allez voir son interview, c'est super intéressant. Et puis, il sait raconter les histoires, voilà, c'est très plaisant, ça passe tout seul. Donc voilà, on aura la chance d'avoir Jean avec nous, donc il pourra revenir sur ses années folles.
Exactement. Bah, d'ailleurs, oui, au subtil jeu de mots, parce que c'est lui qui l'a écrit les années, le supplément Année folle pour l'appel de.
C'était beau, c'est beau là.
Tout est calculé avec Laurent. Ah, attends,
c'est extraordinaire. Oh là là.
Maintenant, j'ai peur.
Avec une couve absolument magnifique d'ailleurs.
La oui, alors 14h15, pause café. Voilà. Donc, et session 5, on va retrouver donc là les mécaniques ludiques. Alors, l'évolution du game design des jeux d'horreur lovecraftienne avec Bastien Votos, donc Monsieur Akritarch, qui notamment a écrit le dernier jeu de rôle d'horreur lovecraftienne, son nom m'échappe, qui demande excuse. Ensuite, alors, deux personnes qu'on connaît, habituées de Rôliste TV, Coralie David et Jérôme Larré.
Ah, bah oui.
L'a pas encodé,
marqué. Oui, voilà. Encoder la culture dans le jeu et les cas des jeux de rôle régaliens. Alors là, j'ai souri quand j'ai vu ça. Parce que, bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais on discute très, très régulièrement avec Jérôme. Et à un moment, on a eu une grosse discussion sur les jeux de rôle. Voilà, merci, c'est horrifique, Sagné, pour le jeu de rôle de Bastien. Et on avait une discussion sur les jeux de rôle régaliens. Et quand j'ai vu la liste, quand j'ai vu ça, je lui ai envoyé un message, j'ai dit, ah bah ça y est, tu l'as casé, t'en sois sûr. Cette vague de Price of Freedom, cette vague de Delta Green, tous ces jeux qui sont dans les années 80,
il parle aussi de Twilight 2000, en fait, hein, qui est un jeu de rôle absolument, mais en fait, avec un nombre de suppléments complètement délirant, donc sur la Troisième Guerre mondiale, en fait. Hein, donc,
on joue et qui, donc, la version, la nouvelle version faite par Free League, qui est traduite en français par Arkane, avec un pays qui est envahi par la Russie, donc pour l'instant, ce que nous expliquait Arkane au niveau de la sortie, on va peut-être attendre, parce que ça fait d'étranges échos. Mais ça, très, très intéressant.
Et Price of Freedom, qui est en fait un jeu, c'est assez marrant, qui est un jeu, en fait, une parodie, quoi, en fait. Donc, oui. C'est bon.
De Greg Costitian, l'auteur de Paranoia et Toon.
L'auteur de Paranoia, quoi. Donc, c'est. Voilà, quoi. Donc, avec sur la couverture un type, il y est marqué Better Dead Than Red. Voilà. Donc,
voilà. Ça s'est amusé à l'époque. À 15h30, cristalliser l'agentivité ludique, variation sur la fiche de personnage. Alors tout à l'heure, Justine, tu disais qu'il n'y avait pas eu trop de choses dessus, donc c'est l'exception qui a confirmé la règle.
Voilà, c'est ça. Et on était contents justement d'avoir cette approche aussi parmi les propositions, parce que là, on ne va pas tant parler de la pratique elle-même de création de perso, que de voilà ce qu'on propose, ce que les jeux proposent justement aux joueurs dans leur personnage et comment ça, ça a pu évoluer avec... Alors, en tout cas, dans la proposition telle qu'elle nous a été envoyée, des choses assez, assez intéressantes à approfondir. Donc, voilà, on termine bien cette session aussi.
Donc, 16h, 16h30, le colloque s'arrête. Et à 18h, parce que visiblement, le soleil se couche tôt à Metz, soirée.
C'est surtout qu'on a prévu de faire, on prévoit large pour pouvoir faire jusqu'au bout de la nuit, écoute.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette soirée jeu de rôle ?
Ben, c'est une soirée où on va jouer à des jeux.
Au jeu de rôle.
Ah bon, c'est pour ça qu'on voilà. fait des colloques.
Vous êtes dans une taverne, qu'est-ce que vous faites ? Il y a les participants du colloque. Hein, 7 participants organisent en fait hein, 7 tables différentes. Donc ça va être donc dans l'université.
Et dis-nous tout, William ou Laurent, est-ce qu'il reste des places surtout ?
Oui, il reste des places. Alors, attends, il reste, alors, parce qu'il y a une partie, il y a une partie de vampire qui est complète, une partie de maléfice qui est complète.
Ah, je sais qui c'est qui joue à maléfice.
une partie de RunQuest qui est complète.
Je sais qui joue à RunQuest.
Tout à fait. Et il reste des places pour l'appel de Cthulhu, année 20. A priori, il reste une place. Unknown Armies, il reste 2 places. Il y a un JDR maison, en fait, hein, sur la matière de France. Ça va être cool. Donc, la chanson de Roland, tout ça, où il reste 4 places. Donc, il y a de la
venez
place.
Jouer.
Voilà,
venez jouer.
Donc, et il y a Légende des contrées oubliées, donc, voilà, où il reste 4 places aussi. Voilà. Donc,
alors, juste une chose, c'est où est-ce qu'on peut s'inscrire s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui veulent jouer ?
Eh bien, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posé.
C'est écrit.
C'est écrit. Il faut écrire en fait à Laurent en fait hein, donc, l'adresse.
Ok, d'accord. Pardon. Oui. Ok, d'accord.
Et qui alors, après
voilà. Vas-y, William. Pardon.
Et qui après me rebalance ça, puis après c'est moi qui gère et donc voilà, c'est 20€ l'inscription pour moi.
Ah, en fait, alors c'est organisé en collaboration avec la Maison de l'étudiant de l'Université de Lorraine qui nous accueille. Donc c'était aussi un événement pour les étudiants, pour qu'ils puissent venir découvrir, et puis quelque part le personnel de l'Université de Lorraine. Donc après, on n'est pas trop fermé. Mais voilà, c'est l'idée, c'était aussi de pouvoir inclure les étudiants dans l'événement.
Mmh. Ouais.
Et de faire découvrir ça. Et donc, alors on parlait tout à l'heure de ce que mangeaient les rôlistes. parce que pour le coup, ce soir-là, on aura des pizzas.
Voilà. Histoire d'être dans le cliché à fond.
Tu sais qu'on va faire une émission sur STV, c'est Jeux de rôle et nourriture, ça sera en live et chacun va expliquer alors, soit les anecdotes, soit les choses comme ça. Voilà. Jeux de rôle et nourriture, est-ce également le maître de jeu qui subit une sorte de ségrégation parce que lui, il est derrière son écran pendant que tous les joueurs sont en train de manger.
C'est vrai.
Et là, il est là, je peux voir des petites miettes et tout ça. Ou le joueur qui en apporte très régulièrement. On a également...
une fiche de perso et pas une fiche de perso tant qu'il n'y a pas une trace de verre dessus, des traces de chips, de café.
Voilà,
tout à fait. Pizza froid, des coca tièdes, exactement.
Voilà. Mais c'est intéressant, ça, ce côté... Alors, donc, pourquoi est-ce que donc, Laurent faisait une allusion ? C'est parce que j'avais expliqué que dans cette Bible donc du jeu de rôle, c'était écrit que normalement votre meilleur copain ça va être le livreur de pizza et puis dedans il mettait penser à faire du sport, c'est quelque chose qui était assez drôle justement qui parle de ça. Mais il y a cette espèce de rite de nourriture autour du jeu. Alors nous on a fait une question, quelqu'un avait dit ouais mais on mange tout le temps, pourquoi venir pour manger et jouer? Parfois on propose d'ailleurs de jouer dans la partie, c'est-à-dire que au lieu de manger on commence à jouer mais on mange dans la partie, donc ce sont les personnages qui mangent et puis on peut discuter. Et alors c'est vrai que sur Rollist TV, moi dès que je fais une partie je prends en photo ce qu'on amène à manger. Alors des fois, il y avait des commentaires qu'on qualifiera d'un peu moralisateur en disant « Vous n'avez pas honte de manger ceci, vous n'avez pas honte de manger cela. » Non.
Voilà.
Ou alors aussi très drôle, une photo alors complètement accidentelle où il y avait une bière qui avait été, alors c'était une lèvre ou un truc comme ça, alors, les commentaires, mais ce n'est pas de la bière, ce n'est pas de la bière, enfin, c'est toujours ça. Effectivement, là on voit Dragibus, M&M's, voilà, tous ces...
Ouais,
voilà. Faites-vous plaisir.
Voilà, avec...
avec modération.
Voilà, avec les puces, tout à fait. Et donc, est-ce que ça vous a donné d'autres idées pour...
Je voulais dire, est-ce que ça vous a donné faim ?
Oui, ça, oui, ça aussi. Est-ce que ça vous a donné d'autres idées dans, finalement, bah, toutes ces propositions sur des pistes à creuser, des thèmes récurrents que vous n'avez peut-être pas forcément pu explorer ?
Oh là là.
Oui, mais c'est-à-dire que là, on va rester toute la nuit si on commence. Oui. Si tu nous lances là-dessus. C'est toi qui vois.
Ça veut dire qu'il va y avoir pour les 50 ans et demi du jeu de rôle.
Alors, c'est... peut-être pas et demi, mais il y a de la matière.
Ouais, il y a de la matière. C'est assez. C'est... De toute façon, en fait, bon, après, en sciences sociales, comme ça, quand on fait un sujet, enfin, il est. On se rend compte qu'en fait, on peut l'étudier, voilà, on peut creuser et tout. Mais ouais, les jeux de rôle, c'est absolument énorme, quoi, en fait. Donc, non, mais après, de toute façon, il va y avoir en plus un autre colloque après, donc à Villetaneuse, donc en oui. juin. Donc voilà, 21, il y a déjà...
21, 22 juin,
ouais, tout à fait, ouais,
avec une exposition... permanente, enfin une exposition assez longue. Sur les CV, on va vous en reparler, parce que normalement, celui-ci, je pourrais y aller. Donc, je pourrais ramener certaines choses, enfin, ramener des images. Hein. Visiblement, le fonds de jeu de rôle, on a beau demander, ils ne veulent pas nous le passer, hein, franchement.
Voilà.
Petit esprit, hein, c'est de jalousie, ouais, mesquinerie.
Et donc, ouais, c'est sincèrement, c'est quelque chose qui... on pourrait creuser pendant des années et des années, quoi, en fait. Hein, c'est pas...
Énormément de matière, ouais.
Il y a énormément de matière.
Justement, parce qu'on a ouvert cette boîte de Pandore, entre guillemets, parce que finalement, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de... S'il y avait eu plus de recherches régulières, peut-être qu'il y aurait eu moins de choses, ou est-ce que c'est aussi dû à cet aspect très polymorphique du...
Il y a eu des choses, hein, en fait. C'est juste que les disciplines, peut-être tardent un petit peu à se rencontrer.
Oui, peut-être, oui.
Là, on a la possibilité de bénéficier non seulement des travaux qui ont été faits en France, mais alors à l'étranger, notamment aux États-Unis, hein, où on l'a dit, il y a pas mal de choses. Donc, il y a cet avantage-là. Et effectivement, la nature même du jeu de rôle fait que, l'ouverture des pratiques de plus en plus, etc., fait que il y a de la matière pour les sociologues, pour les historiens, pour les littéraires, pour plein de gens bien. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement pouvoir travailler ça sous des angles différents pour essayer de prendre en compte cette richesse et cette diversité. Et parce que, voilà, là, je parle des disciplines, mais dans tous les jeux qu'on a cités, on a quand même des ambiances, des atmosphères, des genres très différents qui se répondent, des pratiques de jeu qui sont également pas tout à fait les mêmes. Donc, voilà, tout ça, c'est des choses qui commencent à être travaillées. On a des choses qui se développent de plus en plus. Mais, on l'a dit, il y a tellement de production que on a encore du boulot pour, au moins les 50 prochaines années.
C'est ce qui est bien. Voilà, ça permettra de faire cela. Mais en tout cas, on arrive donc à cette fin d'émission. Donc, gros et très, très alléchant programme. On rappelle... Encore une fois, donc, si vous êtes dans les environs de Metz, donc alors juste une chose qui est, alors je pense que ça doit être écrit sur le prospectus, mais vraiment techniquement, où est-ce que ça se situe dans l'université ? Parce qu'on sait très bien que les universités, c'est pas les endroits qui sont souvent les mieux indiqués, et surtout pour évoluer. Voilà.
À Metz,
faites un jet d'orientation.
Ouais, c'est ça.
On va mettre des indices. Donc à Metz, sur le campus du Solcy, donc qui est le campus de SHS, ça se passe à l'IUT. C'est
l'amphi A. Alors on précise, campus SHS, c'est sciences humaines et sociales, voilà. Dessus. Et donc tu disais que c'était sur l'IUT, est-ce que je suis en train de taper hein,
Ouais, sur une île.
C'est l'IUT, l'IUT de Metz, et en fait c'est sur l'île du Solcy. Et l'amphi A, c'est dès que vous rentrez sur votre droite. Hein. C'est facile à trouver. Mais voilà. Carte.
Et l'île du Solcy, S-O-L.
S-A-U-L-C-Y.
S-A-U-L-C-Y. Ouais, c'est Y.
Momomotus.
Oh là là, voilà, je l'aurais complètement fou. Celui-là, je suis en train de l'écrire. Voilà, okay, donc ça y est. Ça y est, ça,
j'épelle pas souvent des mots, écoute.
C'est, et je le remets. Voilà, et merci Justine pour tout cela. Et donc, l'entrée est bien entendu. L'entrée est libre et gratuite, sauf si vous devez payer William pour être dans sa partie. Donc, voilà. Voilà, et donc cela sera sur ces deux jours. Et donc on précise aussi pour le reste du multiverse qui ne peut pas se rendre à Metz. Les internets seront vos amis, car il y aura donc à la fois une captation et puis il y aura aussi les actes. Et puis il y a une troisième chose qu'il y avait, il y a captation. Et oui, ce sera mis également. Après, ce sera archivé, c'est-à-dire que voilà, ouais. on pourra le.
Ça sera streamé en live et archivé. Il y aura les deux.
Vous n'avez pas d'excuses pour louper le colloque.
Ah oui, là non, là c'est c'est très très clair. Bien, un grand merci Justine, un grand grand merci également William, Laurent, et un grand merci. Vous étiez très très nombreux à suivre l'émission. Je le dis toujours, tout cela n'est que du jeu. Bah oui, justement, c'est du jeu.
C'est pour ça que c'est bien.
Et puis je pense qu'on se réinvitera hors colloque pour discuter de différents thèmes de nourriture, de taverne et de plein d'autres choses. Un grand merci à tout le monde. Alors pour Roll Steven, on se retrouve demain, c'est la session est là, pour un tout petit jeu pas connu du tout qui s'appelle Traveler en VF. Et donc nous serons avec les éditions Mnemos à 20h30 pour le lancement, dans tous les sens du terme, de ce monument qui va vous emmener loin, très très loin. Je dois dire un truc comme vers l'infini au-delà, mais après on m'a dit que c'était pas. je sais plus.
Autre univers.
Voilà, exactement, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est le truc où il y a Dark Vador et des trucs laser, comme tu montres dessus. Un grand merci, Justine, William et Laurent. Un grand merci.
Salut,
à tout le monde.
Merci à vous. Merci à vous. Salut.
Merci, bonne soirée.